Il me semble qu'il est l'heure et qu'on va pouvoir passer une petite heure ensemble à parler de sujets réjouissants, c'est-à-dire d'érotisme, de pornographie et de science-fiction. Une association qui n'est pas récente, puisque s'il faut citer quelques œuvres mémorables, vous avez sûrement lu Philippe-Joseph Farmer et ses amants étrangers, par exemple. Mais vous avez peut-être lu aussi ses romans un peu plus trash et peut-être plus côté porno, signés du pseudonyme Kilgore Trout. Vous avez peut-être lu La nuit des temps de René Barjavel, qui a quand même un côté érotique qui, moi, personnellement, m'avait beaucoup bouleversée quand j'étais ado. Vous avez peut-être lu Les monades urbaines de Silverberg et quelques autres romans de cet acabit. Acabit.
Pardon. Après réjouissance.
Alors, je voulais signaler aussi qu'il y avait des anthologies qui ont fait date dans l'histoire de l'érotisme et de la science-fiction. Il y a eu d'abord, coordonnée par Jean-Marc Ligny, je ne sais pas s'il est avec nous en ce moment, mais deux anthologies successives. La première qui s'appelle Cosmic Erotica, qui était écrite par des plumes toutes féminines. Et la deuxième, Eros Millennium, écrite par des plumes toutes masculines. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Édité par une femme et dans laquelle Sarah Dock a publié une nouvelle. Donc, on y reviendra probablement. C'était au début des années 2000. 10 ans plus tard, deux anthologies sont sorties en même temps. L'anthologie 69 chez les éditions ActuSF et l'anthologie Chasseurs de fantasmes aux éditions Griffes d'encre. Donc, rien qu'avec ces quelques recueils, plus les histoires de sex-fiction de la grande anthologie du livre de poche, ben vous pouvez tout de suite mettre la main sur une cinquantaine d'excellentes nouvelles qui relient nos genres de l'imaginaire avec l'érotisme et la pornographie. Alors, pour parler de ces questions avec nous aujourd'hui, nous avons à ma droite Fabien Wellmann. Fabien Wellmann est scénariste de bande dessinée depuis 1998. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Il a réalisé une quarantaine d'albums. Il a eu 2 fois le prix de la meilleure bande dessinée de science-fiction aux Utopiales. En particulier, il l'a eu pour Les derniers jours d'un immortel, qui fait tout à fait partie des œuvres en rapport avec notre sujet. Il est en train de boucler sa trilogie Le dernier Atlas, dont le premier tome avait obtenu le prix ActuSF de l'Uchronie. Et l'érotisme est un de ses grands thèmes. Par exemple, on peut citer Polaris, la nuit de Circé, publié chez Delcourt, où Circé est un groupe au sein duquel on essaie de réinventer l'art érotique en utilisant des jeux surprenants sous contrainte qui ont une forme assez oulipienne, mais tu nous raconteras tout ça. On pourrait citer aussi L'herbier sauvage, qui, dans une forme tout à fait différente, rassemble un certain nombre de témoignages sur la sexualité, des témoignages intimes d'hommes et de femmes. Ensuite, nous avons avec nous Sarah Dock, que vous connaissez forcément, qu'il est difficile de présenter parce qu'elle fait tellement de choses que c'est un peu compliqué de parler de tout. Elle est autrice, elle est traductrice, elle est militante, et militante féministe, mais militante aussi pour la reconnaissance du travail des auteurs et la défense de leurs droits. Elle est aussi journaliste. Elle a publié beaucoup de nouvelles, mais aussi de beaux romans. Je vous recommande en particulier de lire un très bel ouvrage sur les fées qui est Technofaerie, de lire La complainte de Foranza, où il est question de meurtre de femmes. Et c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Je vous disais, elle était déjà au sommaire de Cosmic Erotica. Et je pense que sur l'association science-fiction-érotisme, elle va avoir des tas de choses à nous expliquer. Et puis nous avons avec nous Christophe Siebert, un jeune auteur qui publie essentiellement Au Diable Vauvert. C'est pas vexant ce que je dis là. Non, non, tu n'es pas. Alors, si je dis jeune auteur, c'est parce que vous le connaissez probablement par ses romans qui relèvent des genres de l'imaginaire, dont le premier était Métaphysique de la viande, mais qui date de 2019, c'est pas si vieux. Puis Images de la fin du monde en 2020, Féminicide chez 2021. Donc tout ça, c'est les chroniques de Merde Vekgorod, je savais que je ne devrais pas essayer de le dire, qui devrait à terme comporter une vingtaine de volumes, donc c'est un projet ambitieux, de grande ampleur. Mais en fait, ce que vous savez peut-être un peu moins, est-ce que Christophe n'a pas mis en valeur dans la présentation qu'il a fait de lui-même au sein des Utopiales, c'est un auteur érotique qui s'investit beaucoup et depuis longtemps, avant même, je crois, ta collaboration avec Le Diable Vauvert, sur les romans et les nouvelles érotiques. Alors, en vrac, tu gères un podcast sur, qui s'appelle Les lectures érotiques de Charlie.
Non, je ne gère pas ça. Non, ça c'est...
Tu ne gères pas, oui. Tu le...
on y est beaucoup invité, par contre.
Ouais. Tu es très lié. tu diriges l'anthologie annuelle de la Musardine, dans laquelle tu figures au sommaire quelquefois. Ça, c'est mes enquêtes personnelles.
Bon, je ne la dirige pas non plus.
Non, pas non plus.
Par contre, je dirige une collection à la Musardine.
tu diriges une collection de romans pornographiques chez la Musardine, justement. Là, c'est bien ça. Et tu es membre du jury du prix de la nouvelle érotique. Alors ça, c'est au Diable Vauvert. J'attire votre attention dessus parce qu'il faut s'inscrire. Mais ça se passe la nuit du 12 novembre. Et ça vaut peut-être le coup de participer parce qu'il y a un prix doté de 2000 euros, je crois, et 3 semaines de résidence à Vauvert pour le lauréat. Donc, une expérience qui se tente. Bon, je les ai présentés rapidement tous les trois, mais j'aimerais bien leur poser à chacun une première question en rapport avec ce qu'ils font. Et si vous voulez bien, je commence par Fabien.
Merci.
Alors, Fabien, faire de l'érotisme sous contrainte, avec des limites, en ayant des règles du jeu un peu abstraites, en quoi c'est excitant et qu'est-ce que ça permet de faire ?
Alors déjà, je me permets de dire que je suis super réjoui qu'on soit 300 à être réunis ici pour parler de cul. Non, mais en vrai, c'est trop cool, quoi. Et donc, on a la même passion secrète. Personne n'en parlera en dehors de cette salle, bien entendu. Mais je vais prendre quelques photos. Et puis maintenant que tu as parlé d'Akabit, je suis complètement décontracté. Je peux dire d'énormes conneries. Polaris, c'était donc effectivement un roman graphique que j'ai écrit avec Gwen de Bonneval chez Delcourt. Alors, ce n'est pas de la science-fiction, mais on va commencer par ça, puisque là, le début de la thématique, c'est érotisme, pornographie. L'idée, pour aller très vite, c'est que c'est inspiré de l'Oulipo. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers de ce qu'est l'Oulipo, l'ouvroir à littérature potentielle. Donc
il y a quand même le Tellier qui est là, dans cette édition. Donc, je pense que tout le monde a un peu entendu parler de l'Oulipo.
Donc, on va dire que vous savez plus ou moins ce que c'est, mais je préfère le répéter. C'est, dans le cas de l'Oulipo, c'est de la littérature sous contrainte. L'exemple le plus connu, c'est d'écrire un roman sans la lettre E, et ça donne La Disparition. Et il y a l'équivalent en bande dessinée qui s'appelle Loubapo. Et en gros, j'avais proposé à Gwen qu'on réfléchisse à un nous sexpo, donc un ouvroir à sexualité potentielle, en partant précisément du principe que peut-être l'intérêt de l'érotisme est de fixer des limites. Alors on va peut-être parler plus tard des définitions nombreuses et variées de ce que sont l'érotisme et la pornographie, mais en tout cas, une des choses qui moi m'intéressait, c'est de me dire... Est-ce que le fait que tout soit permis, le fameux jouir sans entrave de 68, est-ce que c'est vraiment la seule voie à suivre ? Ce n'est pas parce que la porte est ouverte qu'il faut forcément foncer là. Inversement, on voit ce que ça a apporté de positif, bien entendu. Et est-ce qu'on pourrait imaginer un mouvement né dans les années 50-60 qu'on a inventé, qui s'appelle Circé, et qui essaie de réinventer l'érotisme en fixant des règles, comme on peut en retrouver, peut-être que Sarah en parlera, dans le BDSM, donc des choses très codifiées, qui font qu'en fixant des interdits qu'on crée de toutes pièces comme dans n'importe quel jeu, s'il y a des rôlistes dans la salle, on voit de quoi on parle ici, est-ce que ça ne va pas justement recréer une forme de transgression ? Donc c'était ça, moi, le sujet qui m'intéressait, c'était est-ce qu'on ne peut pas créer des transgressions de toutes pièces, puisque pendant le jeu, c'est interdit de faire ceci ou cela, et de là, réinventer une certaine forme d'érotisme. Donc le sujet était central là-dedans, je ne vais pas en parler trop longtemps maintenant, parce que ce n'est pas de la science-fiction. C'est un livre, je préfère prévenir, qui est un peu bancal. Je n'ai pas réussi complètement à atteindre ce que je voulais, mais c'est toujours intéressant de parler aussi d'un bouquin un peu raté, parfois. Ça dit quelque chose de ce qu'on veut essayer de faire. Et ce qui est sûr, c'est que ce que je revendique du bouquin, avec ses défauts, c'était vraiment cette idée-là. C'est que j'ai l'impression qu'on, surtout aux utopiales, on peut dire ça, c'est un sujet, l'érotisme, dans lequel on devrait mettre énormément d'imagination. Or, cet imaginaire, on l'a malheureusement délégué à tout un univers pornographique qui n'est pas toujours néfaste, mais qui est beaucoup néfaste en ce qui concerne ce qu'on trouve sur Internet. Et j'aimerais bien qu'on se réaccapare ça et qu'on en refasse un motif d'imaginaire et de créativité.
Alors, Fabienne vient de nous dire que c'était excitant d'avoir des limites pour pouvoir les franchir et les transgresser. Alors,
ça dépend des gens, hein. Ça, oui. Faut être un peu sapio des fois pour être excité par une règle de jeu, mais j'en connais parmi vous. Ouh, les petits coquinous ou coquinettes. Donc oui, ça peut l'être, mais là on va aussi parler de peut-être des sapiosexuels, ça dépend où on met la notion d'excitation.
Eh bien, j'allais justement proposer à Christophe de nous donner son point de vue, parce que de ce que je connais de la place de l'érotisme ou de la pornographie, on est peut-être carrément du côté de la pornographie, oui. Y compris dans Images de la fin du monde. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin, mais il y a quand même une scène assez gore dedans, au moins une, mais moi, elle m'a quand même laissé un souvenir très, très net, d'un jeune drogué qui a le poignet brisé, qui est en train de mourir de froid, de faim. Un pauvre garçon qui ne va pas bien du tout. Et le narrateur vient lui prêter assistance, il lui apporte une couverture, il lui promet un repas chaud. Et on sent, sans que ce soit dit, toute l'horreur de la situation qui se prépare. Et on sent que ce malheureux jeune homme qui ne va pas bien du tout va devenir un esclave sexuel et peut-être vivre bien pire que ce qu'il est en train de vivre au moment où se passe le récit. Alors pourquoi l'horreur ? Pourquoi est-ce que tu mets l'horreur et l'érotisme ?
Alors déjà, il faudrait se poser la question de savoir si cette scène-là ou d'autres scènes qu'il y a dans mes bouquins sont des scènes érotiques. Et à vrai dire, je crois pas. J'ai un peu le cul entre deux chaises dans cette table ronde, puisque je suis d'une part auteur d'effectivement de bouquins qui relèvent de l'imaginaire, du polar, de différents genres de fiction, et d'autre part éditeur de romans pornographiques pour la Musardine. Et justement, à ce titre, en tant qu'éditeur, j'ai fait une différence vraiment très forte entre des histoires qui parlent de sexualité, qui mettent en scène la sexualité de façon diverse, et l'érotisme, qui est pour moi un genre qui a une fonction précise, comme l'horreur a pour fonction précise de foutre la trouille au lecteur, comme la comédie a pour fonction précise de faire rire, l'érotisme pour moi a pour fonction précise d'exciter les lecteurs et les lectrices. Et une scène de sexe peut être très réussie, mais si elle ne parvient pas à ce but, soit parce qu'elle ne s'était pas fixée, soit parce que l'auteur a raté son coup en chemin, c'est pas une scène érotique. Et c'est pour ça que je pense que les liens entre science-fiction et érotisme sont difficiles à établir, parce que peut-être que je manque aussi de culture sur le sujet, mais j'ai le sentiment que beaucoup de bouquins de science-fiction, beaucoup de nouvelles de science-fiction explorent les relations humaines et les relations sexuelles humaines ou pas humaines ou interespèces ou tout ce qu'on veut, mais pas forcément dans le but, pour le dire crûment, de donner envie de se branler. Et je passe la parole à ma voisine.
Quel sens de la transition.
C'est ce que j'allais faire, mais je vous propose de garder le sujet érotisme et science-fiction pour un petit peu plus tard, parce que Sarah, il faut aussi qu'on lui pose d'autres questions. Elle a un point de vue qu'il sera intéressant d'entendre, je pense, sur les liens entre science-fiction et fantasy, d'une part. Tu as écrit sur les fées. Est-ce qu'on peut érotiser les fées ? Est-ce qu'elles sont spontanément érotiques ? Sachant que tu peux parler en même temps de fantastique et érotisme, où là, le lien, il est assez évident, il me semble. Enfin, le vampire est une créature au moins romantique, mais peut-être un peu plus.
Il y a mieux, loup-garou,
il y a le loup-garou. Est carrément trash. Et...
Le loup-garou est beaucoup plus viril que
oui, et puis il y a le succube, vampire. Et puis il y a toute une galerie de personnages. Alors, voilà.
Alors, je peux donner beaucoup d'exemples, en fait. En fantasy, il y a entre autres Cuchiel de Jacqueline Carré qui parle d'une héroïne qui est une courtisane de haut vol dont la spécialité est la soumission. Et c'est quelqu'un qui jouit énormément de sa propre soumission et de sa propre douleur. Et en fantastique, oui, dans tout ce qu'on appelle la bitlit. Là, on a énormément de personnages féminins, essentiellement, de personnages forts, féminins, de guerrières, d'enquêtrices, etc., qui rencontrent des créatures fantastiques, des loups-garous, des vampires, des incubes, des succubes, des lutins, des fées, etc., etc., avec une forte charge érotique. Ce ne sont pas forcément des bouquins qui vont te donner envie de te branler, comme tu dis si bien, mais ce sont des bouquins qui vont vraiment évoquer les relations sexuelles, et parfois avec une certaine charge érotique. On peut parler aussi au niveau en série télévisée d'une série qui s'appelle Lost Girl, qui est à nouveau de la bitlit avec loups-garous, fées, sirènes, etc., etc., et dont l'héroïne est une succube, qui donc se nourrit du plaisir qu'elle donne et qu'elle reçoit. Et en SF, on a aussi des bons exemples. On a Druna dans la pornographie. Hein, on peut voir la différence entre Druna et Manara, Manara étant beaucoup, beaucoup plus soft, et Serpieri étant quelqu'un ayant un dessin beaucoup plus cru. On a quand même pas mal d'exemples dans l'imaginaire d'une certaine charge érotique dans les relations entre les personnages.
Je trouve qu'on est un peu flou sur le vocabulaire. Donc j'ai envie de vous demander à tous les trois si vous avez envie de faire une différence entre érotisme et pornographie. Dans les petits échanges qu'on a eus entre nous avant, personne ne prononçait ni un mot ni l'autre. Ils disaient tous, quand on écrit du cul, ils disaient du cul. Ça évite de faire une distinction. Mais s'il faut en faire une, j'aimerais bien savoir si vous la posez au même endroit. Et j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur ce que disait Christophe. Si j'ai bien compris, pour toi la vraie littérature érotique, c'est celle qui fait bander les hommes et mouiller les femmes, parce qu'on parle plus de bandaison que de mouillaison, et j'aimerais bien qu'on en parle aussi. Mais pour moi, j'aurais eu tendance à penser que c'était plutôt du côté du porno qu'on avait cet objectif. Est-ce que l'érotisme est quelque chose de plus intellectualisé, au sens où en parlait Fabien tout à l'heure, par exemple?
Un érotisme qui ne ferait pas bander ou pas mouiller, il y a quand même un petit souci, je suis d'accord, c'est comme une comédie qui ne fait pas rire. Je suis assez d'accord que pour moi, il y a une volonté de la part de l'auteur ou de l'autrice d'atteindre une forme d'excitation chez le lecteur et la lectrice, ce qui n'est pas toujours le cas d'un texte où il y a de la sexualité. Typiquement, quand j'ai écrit des entretiens sur la sexualité qui s'appelle L'herbier sauvage, c'était tout un débat dans ma famille catholique, savoyarde, de dire « Est-ce que tu as fait des livres de cul ?» Et je disais, alors à chaque fois, je me rattrapais comme je pouvais, et ma mère le faisait encore plus vite que moi en disant « Non, non, c'est sociologique, c'est sociologique !» Et c'est un peu vrai. Et là où c'était vrai, c'est que pour moi, un livre de cul aurait été excitant de bout en bout. Et en fait, 70 entretiens sur la sexualité ne peuvent pas être excitants de bout en bout. C'est impossible parce que personne n'a la même sexualité. Et c'est une des réponses qu'on va donner sans doute, qui est un peu commune, c'est que chacun a sa forme d'érotisme, sa forme de pornographie. C'est une question que je pose parfois dans les entretiens de L'herbier sauvage, c'est de dire, mais pour vous, c'est quoi? Citez-moi un exemple érotique, un exemple pornographique. J'ai jamais les mêmes réponses. Donc on voit bien que c'est toujours un peu flou, c'est un peu une tarte à la crème, hein, d'arriver à les distinguer. Ça ne m'empêchera pas de faire mon malin et de donner une définition à un moment ou à un autre, mais parce que j'aime bien faire mon malin. Mais ça veut dire que chacun un peu se demande si. Ce qui est sûr, c'est que sur 70 récits de sexualité, je trouverais même hyper chelou que quelqu'un ait envie de se branler sur les 70. Quoi. Parce qu'il y en a qui parlent de trucs qui sont très dramatiques, il y en a qui sont très drôles, il y en a qui sont peut-être excitants d'un point de vue plus classique, il y en a de soumission, de domination. Bah parce que, comme si on faisait un petit sondage ici, on a tous nos fantasmes que je ne veux pas connaître. Enfin, si, en vrai, je veux les connaître, mais on verra ça plus
tard. On gardera une partie discussion, voilà, avec la salle.
Mais pas on n'est pas sûr tous de. Tous à la fois.
Disons qu'on ne va pas ouvrir les portes tout de suite. On va passer dans les rangs avec un
micro.
On en
a pour 12 heures.
On a un enregistreur avec nous et on va vous interviewer chacun l'un après l'autre.
Mais si je dois parler d'une micro, pas une définition, mais une piste de réflexion, pour moi, il peut y avoir par exemple une pornographie sentimentale. C'est-à-dire, ce que je vais appeler pornographie n'est pas forcément lié à la sexualité en tant que telle, qu'on associe tous plus ou moins au porno classique, mais que par exemple, on a participé à une soirée au lieu unique, on devait écrire un roman harlequin. C'était hyper drôle, en une soirée. Et c'était, pour moi, les romans harlequins, c'est une forme de pornographie sentimentale, c'est-à-dire qu'on se met dans un état qui va faire que le lecteur, en général plutôt la lectrice, quoique, va se mettre dans un état d'excitation sentimentale. Donc je dirais que le point commun à ce que j'appelle la pornographie, à titre personnel, ça serait « on assouvit directement le désir du lecteur et de la lectrice ». Il y a des formes de pornographie d'action. Quand un type dit du style « je vais péter la gueule de ces types » et il pète la gueule de ces types, ben, il y a une partie de moi qui jouit en tant que petit. Enfin, le type qui n'a pas trop de muscles et qui se dit à un moment donné, t'as ouais, bien fait pour lui. Pour...
Mais dans la.
Oui, on dirait que je me branle là quand je
dans
fais
la, dans la romance, dans la romance et particulièrement dans la romance historique, il y a énormément de scènes de cul. Mais énormément. Alors, leur point commun, c'est que ce sont des scènes de cul d'initiation pour des vierges, essentiellement, mais qui sont très détaillées et quelque part très crues. Et j'en ai lu quand j'étais adolescente. J'ai fait mon éducation en lisant ce genre de trucs parce que je n'avais pas ça à la maison. Et c'est très déstabilisant. Mais il y a une dimension érotique en même temps. Comme quand je parlais de Lost Girl, dans la façon de jouer de certains acteurs, il y a une charge mouillante, réelle, par rapport à leur rôle, par rapport à leur manière de jouer leur rôle. Avec la succube, il y a une charge très forte, par exemple.
Ça donne hyper envie de le voir.
Et Christophe, j'ai une question précise à te poser. Est-ce que tu penses, Bandazon, est-ce que tu penses autant à ton public féminin qu'à ton public masculin quand tu sélectionnes des textes, quand tu publies des textes, quand tu écris des textes? Qu'est-ce que tu as en tête comme public?
Alors quand j'écris des textes, j'essaie de penser aussi peu à l'un qu'à l'autre. Mais parce que pour moi, dans le monde de l'écriture, il n'y a pas de public. Il y a juste un rapport entre soi et le texte et puis après, vaille que vaille. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que dans la collection qu'on publie à la Musardine, le ratio lectrice-lecteur est le même qu'en littérature générale, c'est-à-dire 70%, 30% de lectrices. Enfin, 70% de lectrices, 30% de lecteurs, je veux dire. Mais par contre, je veux bien revenir sur la distinction érotisme pornographique, parce que pour moi, elle est assez importante, évidemment, surtout en tant qu'éditeur. Pour moi, l'érotisme, c'est vraiment, ça définit le genre, disons, l'émotion qu'on veut susciter, voilà, qui est l'excitation du lecteur ou de la lectrice. Et pour susciter cette émotion-là, ce sentiment-là, on a recours à différents moyens. La romance en est un, par exemple, et la pornographie en est un autre. Et pour moi, la pornographie, c'est vraiment la description détaillée et physique des relations sexuelles. Donc, pour moi, la pornographie est un des moyens de l'érotisme, comme le gore est un des moyens de l'horreur, par exemple. Et je reviens du coup au fait que des scènes très pornographiques dans un bouquin n'ont pas forcément de vocation érotique, ou n'ont pas forcément d'effet érotique. Dans Nuit Noire, qui est un des romans de métaphysique de la viande, je décris énormément de scènes de viol, de scènes de pédophilie, de scènes de nécrophilie. Et bon, c'est vrai que des lecteurs m'ont écrit pour me faire part de leur émotion, mais c'était pas le but que j'avais poursuivi. Et de fait, c'est un roman qui utilise les moyens de la pornographie, puisque en plus, je l'ai écrit après avoir écrit des bouquins porno et donc après avoir appris à maîtriser ce genre-là. Et je voulais utiliser cette technique au sein d'un récit qui me serait plus personnel. Et donc, c'est un bouquin qui emprunte à la pornographie ses codes, ses moyens, une partie de son langage et beaucoup de ses scènes, mais qui n'est pas érotique. Du coup, voilà, j'en reviens toujours à cette distinction qui est vraiment, pour moi, fondamentale. C'est l'intention du texte ou de la personne qui en est à l'origine.
C'est troublant parce que tu es en train de nous dire que l'érotisme ne dépend que de l'auteur. Et moi, j'aurais pensé a priori que l'érotisme, c'était plutôt le lecteur qu'il fabriquait.
C'est une dialectique. C'est-à-dire, d'un côté, on peut avoir un auteur ou une autrice qui a l'ambition d'écrire un texte érotique et il sera reçu comme tel ou pas. Et de l'autre, effectivement, des textes peuvent provoquer des réactions érotiques chez les lecteurs et les lectrices. Mais pour prendre une autre analogie, si on se marre en lisant Crime et Châtiment, est-ce que pour autant c'est une comédie?
C'est vrai que je pense qu'on est nombreux, nombreuses à avoir eu des émois érotiques sur des récits ou des BD ou des films qui n'étaient pas destinés à ça. C'était par effraction et d'ailleurs, ça, c'est des émotions qui sont très particulières. Je ne vais pas vous dire lesquelles parce que d'un coup, je suis en train de m'en rappeler d'une et elle est vraiment... Bon. Ok. Oui, ok, ça a pu me faire une émotion érotique. Enfin, c'est complètement décalé. C'est juste parce qu'il y avait un tout petit peu de nudité à peine. Quoi.
Zardoz.
Oh mon Dieu. quoique Sean Connery dans ce film est quand même...
C'est ce que j'allais dire.
Non, mais quand même, il y a une charge érotique qui est assez folle. Il faut juste l'assumer derrière, quoi. Voilà. Et le dire en société.
Mais d'ailleurs, c'est ce que dit Despentes. À un moment, dans Quiconque Théorie, elle parle de son boulot qu'elle fait pour Hot Vidéo. Elle visionne des DVD, elle les chronique. Et elle trouve très intéressant le fait de ne pas être excitée par des choses qu'elle aurait pensées excitantes a priori, et au contraire d'être très excitée par des trucs qu'elle trouve révoltants en les regardant. Et c'est aussi une des forces, je pense, de l'érotisme, et notamment quand on l'éprouve par effraction devant Zardoz, c'est que ça renseigne beaucoup sur soi-même. On peut pas savoir à l'avance, enfin comme dans la vraie vie en fait, par quoi on est excité, par quoi on n'est pas excité. Je pense que ça, c'est un des très très grands intérêts de la littérature érotique, qu'elle soit traditionnelle, matinée de SF, matinée d'horreur, matinée de fantastique ou de tout ce qu'on veut, c'est que c'est une porte d'entrée vraiment directe sur soi.
C'est d'ailleurs hyper troublant quand une excitation est politiquement incorrecte par rapport à ses propres convictions. Ce qu'on a tous ou pas plus ou moins vécu, parce qu'il y a des gens qui sont complètement raccord entre leur vraie vie, entre guillemets, et leur côté militant, militante, et leur vie sexuelle. Il y a des gens pour qui c'est exactement l'inverse. Je vais donner un exemple pas trop rentre-dedans, qui sera connu du style le PDG d'une grande boîte qui veut être soumis. On voit bien que dans la vie de tous les jours, le PDG de Total ne veut pas être soumis. Enfin, a priori, quand je lis Twitter, je vois bien que non. Mais peut-être, je fais vraiment...
Peut-être que la nuit, il porte une couche et on lui fait des fessées.
Peut-être. Nous n'avons aucune preuve. Mais je veux dire, il peut y avoir un distinguo, bien sûr, entre ce qui nous excite presque malgré nous. Ce qui ne veut pas dire que derrière, on ne peut pas questionner cette excitation. Et se dire, par exemple, surtout après MeToo, il y a énormément de fantasmes de soumission-domination hyper classiques dont on est imprégné parce qu'on est imprégné de culture du viol. On peut trouver malgré soi que c'est excitant. Donc on peut essayer de le déconstruire de manière militante. Par contre, moi, ce que j'entends dans les récits de l'herbier que je ne vais jamais questionner, si je ne vais pas commencer à dire à quelqu'un « Ah non, 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 vous n'êtes pas censé être excité par ça, c'est mal, quoi. » L'excitation, elle, comme tu dis, elle vient quand elle vient. Et jouer avec n'est pas forcément évident.
Eh bien, moi, je voulais demander à Sarah quelque chose.
Mais dans les jeux de domination et de soumission, on peut pas parler à ce moment-là de BDSM. Et c'est, là, oui. on est dans une relation hyper codifiée et quelque part hyper safe. Parce que justement, avec l'existence d'un safe word, avec les règles qui sont mises sur la table dès le départ, ça oui, ça non, etc. D'abord, le pouvoir est entre les mains du soumis plus qu'entre les mains du dominant. Et ensuite, c'est une relation où le consentement est demandé dès le départ. Et toujours questionner la possibilité d'interrompre quelque acte que ce soit, à quelque moment que ce soit, est possible. Et je trouve que c'est extrêmement sain.
Je trouve que c'est une sorte d'avant-garde, hein, en fait. Non, c'est vrai,
ils ne laisseront jamais la parole.
Oh, pardon.
C'est très sain.
C'est moi qui suis la personnalité dominatrice, hein, dans cette table ronde.
Oui, maîtresse.
Je vous le rappelle.
Oui, maîtresse.
Mais je...
Allez, maintenant, il faut assumer.
Oui. Donc, je voulais dire à Sarah... C'est bien de parler de sadomasochisme, mais si on relie science-fiction et érotisme ou pornographie, on tombe très vite sur les robots qui sont des esclaves sexuels. Et vous avez plein de séries télévisées dont c'est le principe, plein de créatures dans Westworld, par exemple, qui sont à disposition de ceux qui veulent assouvir leurs fantasmes, qui sont des fantasmes de puissance, de pouvoir en général. Mais justement, il n'y a pas de consentement, ça ne marche pas du tout.
Il n'y a absolument aucun
consentement. Comment ça fait pour marcher ?
Je ne sais pas. C'est un fantasme que j'ai du mal à comprendre, qu'on retrouve dans pas mal de bouquins écrits par des hommes, dans des vaisseaux spatiaux où il y a une intelligence artificielle féminine, une gynoïde, qui est là à la fois pour gérer le temps de son maître, faire le ménage, faire la bouffe et se faire baiser. Je dis bien se faire baiser, sans consentement, sans questionnement ni quoi que ce soit. C'est une poupée gonflable de très haute technologie, mais c'est vraiment un réceptacle qui va être programmé pour avoir des réactions, avoir des... simuler une forme de plaisir, mais de la part d'un robot, Alors, en même temps, quand on voit que le premier robot sexuel qui a été exposé dans une foire a été entièrement détruit par les visiteurs, qui, à force de jouer avec les seins, les fesses et l'entrejambe de la robote, l'ont déchirée et détruite, on peut se poser beaucoup de questions. Quand on voit que des robots sexuels sont programmés pour le viol, on peut se poser d'autant plus de questions. Parce que là, on est vraiment dans l'absence de consentement total.
Tu peux préciser des robots sexuels programmés pour le viol, pour le subir ou pour le...
Pour le subir.
Oui, alors justement, je me demandais si on a des exemples crédibles et bien étayés de robots sexuels mâles et quel type de rapport ils construisent avec les femmes qui s'en servent.
Alors, il paraît que c'est en fabrication, mais ils ont beaucoup de mal à la réalisation et à la vente, à la pré-vente en tout cas. Il y a beaucoup moins de demandes de la part des femmes que de la part des hommes. Et ce qui est très amusant, c'est que pour revenir à la SF, quand on demande à des femmes en 2000 d'écrire des histoires d'amour ou de sexe, elles écrivent toutes des histoires de sexe. Et certaines d'entre elles admettent après qu'elles ont eu peur du lectorat si elles avaient parlé d'amour. Parce qu'une femme qui parle d'amour, elle est fleur bleue, c'est à l'eau de rose. Quand c'est un homme qui parle d'amour, il est sensible.
Et à ton avis, ça a évolué, ça ?
Ça a évolué quand on a vu en 2010, avec 69 et Chasseurs de fantasmes, on avait des textes beaucoup plus équilibrés et beaucoup moins violents, parce qu'il y avait une grande violence et un besoin
revanche,
de crudité et de revanche chez les femmes qui avaient écrit en 2000. Qu'on ne retrouve pas en 2010.
Moi, j'ai quand même l'impression, mais il faudrait presque le voir là pendant un festival comme les Utopiales, qu'il y a une nouvelle forme de science-fiction qui apparaît, de jeunes auteurs, jeunes autrices, qui intègrent énormément cette question du consentement, mais que c'est assez récent. C'est-à-dire que ça serait quand même quelque chose qu'effectivement, qui n'était pas présent du tout dans une certaine science-fiction un peu classique, archaïque. Qui était parfois, qui se piquait d'un petit peu de féminisme, et c'est déjà pas si mal. Je pense à un bon exemple qui était Valérian, qui était pour moi la première bande dessinée où il y avait au moins un personnage féminin qui existait, qui était Laureline, mais c'était un peu l'exception qui confirmait la règle. J'ai l'impression que maintenant, dans les thématiques que je vois beaucoup apparaître chez des jeunes auteurs autrices, c'est des questions autour du consentement, autour de l'écoféminisme, par exemple, et qu'en fait, tout ça est un tout. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant dans l'écoféminisme, c'est que c'est justement un questionnement du rapport au vivant et du rapport de domination, quel que soit le genre en réalité. Donc je pense qu'en fait, on ne peut pas le décorréler du reste, et que peut-être, ben c'est un vœu pieux, hein, mais que peut-être on peut voir apparaître un nouveau type de science-fiction grâce à ça, qui serait une forme de respect du genre, du vivant, du racisme.
On le voit, je vais citer l'autrice que je cite toujours depuis ce matin, donc Becky Chambers, qui, je vois qu'il y a des gens qui étaient là ce matin,
Remboursé, on entend les mêmes choses.
Qui a un côté qui peut être érotique pour un sapiosexuel en tout cas, mais qui va parler beaucoup des sexualités entre extraterrestres, de la manière de vivre, de la sociologie des extraterrestres, jusque dans leur sexualité, et de relations entre humains et extraterrestres, de manière extrêmement saine et de manière extrêmement déconstruite.
Je crains qu'il y ait un certain nombre de gens qui ne réagissent très mal à cette idée. Je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas un espèce d'état d'esprit actuellement qui dit si c'est woke, ça ne va plus être excitant du tout. Il y a une espèce de contrôle moral qui enlève tout ce qu'il y avait d'excitant dans un viol, tout ce qu'il y avait de sympathique dans la torture.
Dans un gangbang.
Je me tourne vers Christophe.
Ben justement, la question du viol est intéressante, oui. Parce que, d'ailleurs, j'avais dit ça à une table ronde l'an dernier, comme quoi on ne fait vraiment que se répéter. non, pour moi, un viol n'a rien à voir avec le sexe. C'est vraiment une histoire de domination pure et simple. Il n'y a pas de question sexuelle dans le viol. Le fait que ça soit un acte sexuel commis sous la contrainte est finalement d'ordre secondaire. L'important pour le violeur est de posséder et de dominer la victime. Donc, je ne suis pas sûr que au final que ces avancées salutaires de la société concernent tant que ça l'érotisme. Enfin, je veux dire, s'il y a moins de viols, il y aura toujours autant de gens qui baissent joyeusement, voire davantage. Et s'il y a une plus grande égalité entre les gens, entre les individus, une plus grande acceptation de toutes les pratiques, il y aura forcément plus d'érotisme. Parce que ce que tu dis, c'était vrai, la contrainte est intéressante sous forme de jeu, sous forme de langage sexuel. Mais en revanche, plus de liberté, plus de tolérance, ça ne peut que produire plus de bonne santé sexuelle.
Et d'ailleurs, on le voit dans la pornographie féminine et féministe, où il y a un vrai travail qui est fait pour que ce soit un travail éthique, qui soit rémunéré, qu'il y ait toujours un consentement de part et d'autre, que certains actes soient prohibés, qu'on mette en scène d'autres manières de baiser et de faire l'amour, qu'on n'est plus dans la pornographie phallocentrée, où on ne voit quasiment que des bites et des bites et des bites et des bites en érection.
Ça, je le ressens aussi. Bon, dans les bouquins, évidemment, il n'y a pas la problématique des actes ou de la protection ou de choses comme ça, puisque c'est de la littérature, donc on a une liberté forcément plus grande dans le fait que aucune personne réelle n'est impliquée. Mais je ressens effectivement un point de vue moins hétérocentré, un point de vue moins macho dans les textes que je reçois, enfin en tout cas que je publie. Parce qu'évidemment, je reçois aussi beaucoup de...
Alors, si vous tapez pornographie féministe sur Google, il y a entre autres un article très intéressant sur ce genre de cinéma, mais qui cite des sites de cul féministes, avec même des sites gratuits. Donc, c'est intéressant.
Cela dit, c'est intéressant qu'ils soient payants aussi.
Aussi.
Pour rémunérer
mais là,
les...
Mais je, c'est précisé...
Voilà, ça dépend
des sites. C'est précisé quel prix, pourquoi, et c'est précisé ce qui est mis en scène. C'est-à-dire, il y a beaucoup de porno soi-disant amateur, mais quand même mis en scène. Mais on est dans une relation beaucoup plus égalitaire que chez Jackie et Michel, par contre, où le viol et le gangbang étaient foison.
C'est une question de conditions de production aussi. Il y a beaucoup plus de femmes qui produisent leur propre contenu. Et ça change beaucoup de choses.
Et le site de Paolita Papel, par exemple, est très intéressant parce qu'elle explique toute la démarche qu'il y a derrière ce cinéma-là. Ça donne envie.
Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que, bon, de fait, il y a une réaction, bien entendu, qui va taxer de wokisme toute pensée qui irait vers quelque chose qui peut-être amènerait vers du sexe positif ou quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Donc il faut s'y attendre, enfin c'est au-delà de faut s'y attendre, on sait déjà qu'on va s'en prendre plein la gueule, enfin que c'est déjà le cas un peu partout. Donc la question elle n'est pas de dire est-ce que ça sera majoritaire, ça ne le sera pas, pour l'instant ce n'est pas le cas. Par contre je crois que c'est notre rôle d'auteur ou d'autrice, ou c'est le rôle de ces sites, d'arriver à dépasser la bonne intention. Parce que c'est vrai qu'entre une bonne intention, la bien-pensance, finalement à chaque fois qu'on taxe quelqu'un de wokiste, c'est pour dire les bien-pensants, les ceci et cela, ou alors c'est impossible. Déjà commençons par essayer de montrer que c'est pas parce que c'est des idées plutôt chouettes que c'est forcément de la mauvaise littérature ou de la mauvaise bande dessinée ou du mauvais porno. Si on va prendre l'exemple du porno. Si un porno féministe arrive à montrer dans une scène vraiment de cul super cash la mise en scène du consentement et qu'on voit que c'est pas quelque chose d'aussi tue l'amour que Zemmour veut bien le croire, le pauvre, ça a l'air de vraiment le traumatiser, quoi. Il a l'air de se dire, il faut y aller, parce que sinon je ne suis pas un mec. Et tu lui montres un truc, c'est pas lui qui va regarder ça en vrai, mais bon, imaginons, on l'oblige à regarder comme dans Orange Mécanique, un film de cul, avec les yeux comme ça, un film de cul féministe. Il va dire, ah mais en fait, le consentement pourrait être un petit peu fluide et fun, et ça passe très bien, et c'est pas un questionnaire. Effectivement, si on commence à dire, il faut toujours demander, au demeurant, c'est parfois ce qui m'a surpris dans le BDSM quand j'interviewais des gens dessus, c'est que comme c'est très codifié, parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des risques physiques, effectivement, il y a un questionnaire avant l'acte. Bon, là, moi, je trouvais qu'effectivement, c'était vraiment... C'est beaucoup, quoi. C'est un peu un tue-l'amour à certains égards, mais comme les risques sont très importants, qu'il y a de la violence, c'est nécessaire. Donc, on peut se représenter le consentement, d'un point de vue comme ça, de narration, de script érotique, comme un peu relou. Et puis, si on arrive à le mettre en scène, et ça, c'est un rôle d'auteur-autrice, si on arrive à le mettre en scène en montrant, comme peut-être vous le vivez, comme j'espère vous le vivez, et qu'on voit qu'en fait, non, c'est pas forcément un tout l'amour de simplement dire à un moment donné, est-ce que ça t'aime bien, est-ce que t'aimes pas, voire même c'est excitant de poser la question, et qu'on le montre, et que ça devient un jour, espérons, majoritaire, j'y crois pas tout de suite, mais sait-on jamais, ça peut infuser. Et là, je pense qu'on a, ça, pour l'instant, c'est un acte de résistance d'essayer de le faire.
Mais dans la série Sex Education, c'est très très bien mis en scène.
C'est hyper bien fait, ça.
C'est très très bien fait. J'étais ravie que le fils de 15 ans d'une de mes copines les binge-watchait en secret et sa mère la regardait après, elle était ravie. Parce que justement, ben, ça c'est une bonne manière d'apprendre le fonctionnement de son corps et les diverses pratiques. Et c'est mis en scène dans des rapports amoureux entre adolescents, le « est-ce que je peux ?»« Est-ce que tu as envie ?»
Amoureux ou pas amoureux d'ailleurs.
Oui, ça tout peut... à fait. Et c'est quelque chose d'extrêmement bien fait, qui est, pour moi est salutaire et ne devrait pas être interdit aux moins de 16 ans. Ouais. Parce que justement, quand on voit qu'il y a une majorité, enfin il y a un grand nombre de gamins de 11 ans qui ont déjà vu un film porno classique sur Pornhub, ben je préférerais qu'ils regardent Sex Education.
En même temps, Sarah, tu sais très bien que si c'est interdit aux moins de 16 ans, c'est précisément les gamins de 11 ans qui vont aller le regarder. Enfin,
c'est vrai.
C'est le but.
C'est vrai. N'oublions pas qu'il faut toujours dépasser la limite.
Bah oui. Oh, t'es dans la thématique, bravo.
Mais ces questions-là sont en fait, de toute façon, depuis le début, au cœur de la littérature porno, puisque en fait, ça pose la question de savoir si on regarde des corps ou des morceaux de corps en train de s'accoupler ou des individus qui font des trucs. Et la question de la littérature, c'est toujours celle du personnage. Un bouquin porno réussi, donc qui remplit sa fonction érotique, ne sera réussi que parce que la mise en situation, la vérité des personnages, leur voix, leur langue, leur langue au sens... enfin bref. Voilà.
Dans tous les sens du terme.
La crédibilité du contexte va faire en sorte qu'au moment où il va se dérouler une scène de cul, on sera intéressé parce qu'on aura compris les motivations de chacun. Et également les questions de consentement qui peuvent aussi bien d'ailleurs être au cœur du texte, aussi bien aussi pour questionner les limites du consentement et des choses comme ça, et dans les textes borderline. Mais s'il y a bien quelque chose que la littérature porno ne pratique pas du tout, c'est justement le porno au sens audiovisuel, c'est-à-dire montrer des corps qui font des trucs. La littérature porno montre des gens qui font des trucs, des individus, des personnages. Et ça évacue directement en fait ces questions de l'objectivation de l'autre.
Mais ce que je trouve très bien, c'est qu'on commence un petit peu à objectiver des acteurs. Et donc, il y a des très beaux messieurs, très musclés, qui se promènent tout nus sur l'écran, et enfin des objets sexuels masculins. Ça fait du bien de temps en temps.
Avant, c'était Guy Marchand, c'était pas ouf. Oui.
Non.
Le temps tourne, j'avais quand même envie de vous poser au moins une dernière question. Puisque vous êtes tous les trois des auteurs, que vous avez tous les trois écrit de l'érotisme, mais pas que, j'avais envie de vous demander s'il y a des difficultés particulières à écrire l'érotisme ou la pornographie, à bâtir des textes. Vous, qu'est-ce qui vous semble difficile ?
Alors, je vais te reprendre tout de suite en disant je crois que je n'ai pas réussi à écrire un texte érotique jusqu'à présent. Donc oui, je trouve ça très difficile parce qu'à chaque fois, je me réfugie derrière mes concepts, derrière genre, bon, l'herbe est sauvage, ça va être un livre de cul.
Non, la sociologie.
C'est sociologique. Polaris, ça va être un livre de cul. Oh, en fait, c'est tellement sapio qu'à part moi et deux, trois lecteurs de règles de jeu rôlistes, on ne va pas être nombreux à se branler là-dessus. Même moi, en fait, je m'étais auto-empêché de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, je sens quand même, et moi, la grande difficulté, c'est d'arriver à accepter que je vais quand même faire un livrer une partie de mon intimité aux lecteurs et lectrices. Parce que si on prend... Enfin, moi, je pars du principe que si j'essaie de faire réagir mes lecteurs et lectrices, les faire bander, les faire mouiller, il faut que je sois un petit peu dans l'idée que ça va marcher, que moi-même, je ressens une émotion. Je me rappelle d'un éditeur qui m'avait dit « Ah, tu fais partie de ces auteurs qui rient de leurs propres blagues. » J'ai dit « Bah oui, quand j'écris un texte, il faut que je me marre. Enfin, s'il doit être drôle, bah, pour moi, si j'écris un texte excitant, il faudrait quand même que ça m'excite. » Et c'est hyper dur pour moi. Autant je peux faire des blagues devant vous comme ça, mais de dire à un moment donné, bon, maintenant je vais vous dire, allez, je me lâche, je vous dis un truc qui m'excite. Ça, je trouve ça hyper dur, parce que ça veut dire qu'effectivement, là, je ne pourrais pas me réfugier derrière mon petit doigt et dire c'est sociologique, c'est conceptuel, c'est ceci, cela. C'est ok, ça m'excite. Donc, voilà, ma grosse difficulté, elle est là, et pour l'instant, en vrai, j'ai échoué. Voilà. C'est la réunion des érotiqueurs anonymes Raté. Bonjour, je m'appelle Fabien, j'essaie de vous faire bander et mouiller.
Tu peux pas dire la même chose.
Bah, du coup, je vais te dire un truc que je dis souvent à mes auteurs.
Vas-y.
Et qui est que, justement, à mon avis, le principal écueil quand on écrit un bouquin de cul, c'est de chercher soit à mettre en scène ses propres fantasmes, soit à mettre en scène des fantasmes qui correspondraient à un désir du marché, alors que ce qu'il faut, en fait, et comme dans n'importe quel bouquin, trouver la vérité intérieure de ces personnages et mettre en scène leurs fantasmes à eux.
Est-ce que tu peux redire, moi j'ai pas bien entendu ce que tu as dit là.
Trouver la vérité intérieure de ces personnages, comme dans n'importe quel bouquin, et mettre en scène leurs fantasmes à eux, pas ceux de l'auteur, dont on se fout, enfin sauf après on ira boire un coup, mais...
Non, mais tu as le droit de t'en foutre.
Et surtout pas ceux des lecteurs, surtout pas ceux du marché, parce que ça conduit à produire des machins absolument sans âme. Mais si on veut raconter une histoire de cul, c'est l'histoire de cul de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est les protagonistes du bouquin qu'on est en train d'écrire. Donc c'est leur vérité à eux qu'il faut atteindre et mettre en scène. Et pour moi, la grande difficulté est là, de toujours naviguer entre le premier rocher qui consiste à l'écrire parce que ça nous excite soi, et le second rocher qui consiste à l'écrire parce que ça excite l'autre.
Sarah.
Moi, j'adore écrire la sensualité. La sensualité, c'est quelque chose que... Et j'ai beaucoup de facilité à le faire, y compris dans une sensualité explicite. L'acte lui-même, ça m'est beaucoup plus difficile. Mais je suis très, très, très sapio. Et donc, ça devient plus... C'est le vocabulaire qui manque. C'est la difficulté à trouver des termes qui gardent une certaine poésie, qui gardent une certaine légèreté.
Le vocabulaire de tous les jours marche assez bien, à mon avis.
Oui, c'est parce que écrire, c'est comme traduire, c'est de la musique. C'est toujours de la musique.
Justement.
Et trouver la bonne musique avec les bons mots pour aller jusque-là, c'est pour moi plus difficile que dans la sens... C'est-à-dire, je peux écrire des préliminaires sans problème. Et ça, avec tous les détails et tout. Mais il y a un moment, il me manque les mots pour aller plus loin.
Pourtant, je pense vraiment que c'est les mêmes... Enfin, moi, je viens d'une école, en tant qu'auteur, je viens d'une école qui est plutôt représentée par Simenon que par Lautré Hamon ou Céline. Du coup, pour moi, c'est vraiment les mots de tous les jours et c'est l'ordre dans lequel on les met, où on met les virgules, qui va créer la poésie et le rythme. Et d'écrire une scène de cul, c'est à peu près la même chose. C'est peut-être plus difficile parce que c'est moins ton truc en tant qu'autrice. Mais je ne pense pas que ça soit un écueil technique. Je pense que c'est plus une question de goût.
Parce que le
vocabulaire ne manque pas. Le vocabulaire est celui dont qu'on a à disposition en tant qu'être humain.
Disons qu'à ce moment-là, j'aurais tendance à utiliser un vocabulaire un peu plus désuet. Mais ça, c'est un peu moi aussi. Mais non, c'est une difficulté, c'est un écueil pour moi.
Mais alors je constate en vous écoutant que c'est, après le premier écueil qui était « j'y arrive pas », je partage les deux écueils que vous évoquez, à savoir je trouve difficile d'incarner vraiment un personnage qui n'est pas moi et qui va vivre sa scène de sexe. Je trouve difficile d'avoir parfois le bon vocabulaire. Et je crois qu'inconsciemment, c'est aussi pour ça que j'avais fait L'herbier sauvage.
Oui.
C'est que c'était une manière pour moi de me dire, si j'écris mon truc, ça risque d'être toujours un peu mon fantasme photocopié. Et c'est vrai que c'est pas une bonne idée.
Alors tu collectionnes les fantasmes des autres.
Le fantasme ou récit de vie, c'est pas forcément des fantasmes, justement. Et des fois, c'est des ratages. Et des fois, c'est des trucs très touchants, mais avec très peu de choses. C'est très ténu. Souvent, je disais aux gens, en fait, je sais pas ce que je cherche tant que je l'ai pas trouvé. Et des fois, c'est un mot. Et je crois qu'à force, quand même, ça commence à me donner un vocabulaire, parce que chacun a une façon d'en parler qui est la sienne. Ça commence à me permettre, alors si ce n'est d'écrire un livre de cul, parce que j'y arrive pas encore, mais si je dois mettre une scène érotique dans un récit dit classique, ce qui au demeurant serait déjà une belle victoire, parce qu'en général, j'ai tendance à me dire, si c'est du cul pour du cul, il n'y a aucun intérêt narratif. Si par contre, ça révèle quelque chose du personnage, comme tu dis, là, d'un seul coup, une scène de cul, elle peut complètement s'inscrire dans un récit dit classique, qui n'est pas un récit érotique, mais qui montre des gens normaux qui font du cul normalement, enfin normalement ou pas, mais qui font du cul. Et là, d'un seul coup, je me dis, je n'aurais pas, parce que toi, tu parlais de Serpieri, par exemple, et de Druna, on peut tout à fait, je peux revendiquer le fait que ça a été hyper masturbatoire à une époque, et avec du recul, me dire, c'est un peu problématique, c'est le fantasme de Serpieri,
tout à fait,
et à l'infini.
Mais par exemple, moi, j'adore Serpieri parce que je trouve son dessin extraordinaire.
Oui, ça, c'est oui.
Ah oui, mais vous trichez, vous êtes reparti sur le dessin. Et, Si on revient sur le vocabulaire, effectivement, en gros, pour parler d'un vocabulaire sexuel, vous avez le vocabulaire à tendance médicale, qui est très anatomique et qui ne porte aucun affect. Et puis vous avez le langage grossier, familier,
cru. Disons plutôt cru.
Cru et qui peut être grossier, vulgaire ou enfantin. Et en dehors de ces trois registres, il n'y a pas grand-chose. Or, il me semble, et ça, je ne vous ai pas trop entendu en parler, que...
Désolée, maîtresse.
Oui. Non, mais je...
Nous allons être punis.
Je vous fouetterai tout à l'heure. Mais on ne peut pas faire de l'érotisme avec n'importe quoi. Essayez un peu de faire de l'érotisme avec le parfum d'une rose, ou même avec un gâteau au chocolat. Enfin, si, on peut l'étaler. Enfin, bon, je vous laisse
imaginer. Tu as la chance, en fait.
Mais...
Je t'enverrai le livre de la collection, tu vas voir.
Challenge accepted.
Bah, en fait, on pourrait essayer. Il y a la, comment c'est les plaisirs d'une demoiselle ou les journées d'une demoiselle, chanter une chanson très ancienne.
Oui, qui est magnifique.
Que j'adore, qui utilise toutes les métaphores pour le cunnilingus.
Elle est incroyable cette chanson.
Elle est merveilleuse, j'adore.
Alors il y a aussi un mouvement. Bon, j'ai pas de bonne réponse à porter à ta question, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Il y a tout un mouvement qui apparaît de plus en plus avec ces notions de consentement, de réflexion, et qui consiste à justement essayer de voir si on peut garder à la fois la crudité d'un certain vocabulaire, parce que des fois, appelons un chat, si je peux me permettre de le dire un peu rapidement, il y a des mots qui marchent.
Appelons une chatte.
Voilà, je te laisse le faire, parce que, Akabit girl, je te laisse la possibilité de faire ces gags. Non, c'est un peu facile de ma part. Et en même temps, parce qu'il y a des fois où l'excitation vient de l'obscénité, du fait qu'on sait très bien que le mot, bon, voilà, c'est obscène, c'est cru, voilà.
Oui, mais justement, est-ce que bite et chatte, c'est des mots obscènes et crus, ou est-ce que c'est simplement des mots de tous les jours ?
Non, on peut enfin, moi, aussi les utiliser comme tel.
Je sais pas,
ça fait partie du vocabulaire courant,
oui,
tout
voilà,
à fait.
Oui.
Mais...
Après, si on commence à parler de chagade, de mandrin, de gros cornichons turgescents, bon, on change un peu
de
catégorie.
Est-ce que vous avez beaucoup de mots pour couilles et testicules ?
Tu viens de tous les citer.
Bah, justement,
on peut en inventer plein. Mais
des boules, des prunes.
En tant qu'éditeur, j'essaie justement d'être le moins possible dans ce vocabulaire recherché et bizarre. Pour moi, l'idée, c'est justement de rester collé.
Là encore, ça va dépendre du public, ça va dépendre de ce qu'on attend. Ça peut être drôle d'avoir un vocabulaire un peu désuet, un peu décalé. Ça peut aussi être tellement drôle que ça devient tue l'amour. Parce qu'on parlait de... Bon, là, on ne l'a pas abordé, mais la question de l'humour et de la sexualité. Est-ce que érotisme et humour sont antagonistes ou complémentaires ? J'ai tendance à penser que ça peut être complémentaire, mais qu'à un certain niveau, ça peut être antagoniste. Ça dépend du moment, ça dépend d'eux. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, on voit des bon, je ne dis pas que c'est un grand mouvement, ce n'est pas une révolution, mais des personnes qui réfléchissent à des néologismes pour parler de sexualité.
Ça, c'est très intéressant.
Et qui permettraient, par exemple, de ne pas forcément utiliser un langage cru qui est lié au langage de la domination et plutôt de la domination misogyne. Et cette question-là, je ne dis pas que les premiers néologismes fonctionneront. C'est comme quand on a employé pour la première fois empuissancement. On a eu du mal. D'ailleurs, souvent, on utilisait le mot empowerment parce qu'on n'arrivait pas à trouver un équivalent. Donc au début, ça fait peut-être un peu ridicule. Au début, on n'est pas sûr, mais c'est comme le consentement, ça s'apprend. Et je suis persuadé qu'il y a des mots qui vont commencer à apparaître, comme par exemple s'explorateur ou s'exploratrice. C'est rigolo, ça fait un peu Dora.
Mais et puis on est...
Ça, c'est un peu... Ok, non, je retire, c'est chelou.
Mais c'est mieux que
par exemple salope, queutard, enfin, ou clitarde. Clitarde est un assez joli, une jolie adaptation.
J'aime bien. Mais on est dans un festival de SF. Donc, les néologismes, c'est normal.
Et oui, puis ça s'apprend plus vite ici.
Oui.
Là où le BDSM est une avant-garde du consentement, peut-être que les utopiales peuvent être une avant-garde d'une orgie qui va se tenir à 19h. Et j'ai mis des flyers sur la table. Je suis désolé, Sylvie.
Mais non, continue.
Désolé, maîtresse.
Il faut que ça dure. Il faut que ça dure suffisamment longtemps.
Ou pas, il y a un débat aussi sur cette question.
Oui, il y a un gros débat.
Il ne nous reste que quelques minutes. Qui vont être trop courtes, mais ça vous laisse quand même la possibilité, vous avez des spécialistes sous la main, de poser éventuellement quelques questions. Monsieur Dardinier, au premier rang.
Première question concernant les définitions.
Attendez le micro, s'il vous plaît.
Il arrive.
Parce qu'il me semble que la différence fondamentale, quelles que soient les choses qu'on met derrière, entre l'érotisme et la pornographie, c'est que l'érotisme, c'est une définition universelle, alors que la pornographie, c'est une définition qui change historiquement. L'érotisme, c'est tout ce qui est lié à la relation amoureuse. Ça veut dire que le roman courtois, c'est un roman érotique. Alors que la pornographie, par définition, par étymologie, c'est ce qui montre ce qui doit être caché. Or, ce qui doit être caché, ce n'est pas du tout la même chose à toutes les époques. Et deuxièmement, pour la différence, il y a une deuxième différence qui est légale. C'est-à-dire, avant, il y avait ce qui était autorisé et ce qui était interdit. Et puis, pour le cinéma, on a vu Giscard d'Estaing qui a autorisé les films pornographiques et puis qui les a condamnés à la médiocrité en mettant en les X-ant et en leur donnant une taxe supplémentaire. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir des vrais films porno avec des vrais acteurs, des vraies ambitions, on a eu un film porno médiocre. Par exemple, on aurait pu avoir un Crash de Ballard tourné avec des acteurs et des scènes porno. Je pense que c'est un peu ce qu'a voulu faire Virginie Despentes avec son film Baise-moi, où elle embauche des acteurs porno au milieu d'un film qui pourrait être un film normal.
J'ai une super anecdote à ce propos. Il y a le directeur de la Cinémathèque de Bruxelles qui s'est dit un jour qu'après avoir collectionné les films de polar, les films de science-fiction, etc., ce serait peut-être intéressant de faire un fonds pour le film pornographique. Et donc, il a été visiter différents cinémas pornographiques de la ville de Bruxelles et il est tombé sur un gros écueil. C'est que chaque cinéma avait sa spécialité. Il y avait des cinémas où il y avait plus de fellation, des cinémas où il y avait plus de sodomie, etc., etc. Et donc, chaque cinéma remontait le film en rajoutant des scènes pour correspondre à sa spécialité. Donc, un fond du cinéma porno tel qu'il a existé est impossible, puisque selon le cinéma où il a été projeté, le film est différent.
J'adorerais que quelqu'un fasse ça avec mes BD.
Peut-être que c'est le cas, tu sais pas.
Peut-être que c'est le cas, je vais aller sur internet pour vérifier que. Et pour rebondir sur ce qui est dit sur les films, moi je sais que c'est une des motivations qui a fait que je me suis dit à un moment donné, ça serait bien qu'un jour j'arrive à écrire des bandes dessinées où il y a eu des scènes de sexualité pornographique ou érotique, mais apparentes. C'est précisément parce que je trouve que dans le cinéma, pour plein de raisons, c'est impossible. Pas impossible, mais compliqué, parce que dès qu'on voit une scène de cul dans un film qui raconte une histoire, je ne parle pas d'un film X, classé X, une partie de moi se dit comment ils ont fait cette scène. Est-ce qu'ils ont convaincu les acteurs d'aller jusqu'à une scène pornographique non simulée? Ce qui est le cas d'un certain nombre de films qui ont été faits. Est-ce qu'on trouve des acteurs de films de cul, ce qui a fait Despentes, et on leur apprend à jouer un peu mieux? Parce que des fois, ils savent plus faire l'un que l'autre.
Dans Baise-moi, ils ne savent pas très bien jouer.
Il se trouve que dans Baise-moi, à moitié, mais il y en a qui savent plus ou moins pas si mal jouer, mais bon. Est-ce que c'est un insert, ce qu'a fait par exemple Dumont, je crois, dans La vie de Jésus? À un moment donné, il y a un insert de pornographie, mais ce n'est pas les vrais acteurs, mais c'est un insert. Le risque de tout ça, dans mon cas, c'est que ça me fait sortir du film en me disant comment ils l'ont fait. En BD, en littérature, on ne se pose pas cette question. S'il y a du cul, il y a du cul, c'est des acteurs de papier. La question du consentement, elle se pose vis-à-vis de ce que veut lire ou pas le lecteur ou la lectrice, mais on peut tout expliquer, on peut tout montrer. Donc on pourrait faire un récit qui parle de vie de gens normaux ou de science-fiction et il y a d'un seul coup une scène de cul qui est, si elle est légitime dans le récit, elle peut être aussi crue qu'on veut. Ce que, par exemple, Thomas Cadden a très bien fait, je trouve, dans pas mal de ses boulots. Et ça dit quelque chose des personnages. Et donc là, je trouve qu'on a vraiment une carte à jouer, typiquement, dans la littérature fantastique, dans la bande dessinée, que le cinéma, pour l'instant, a du mal à faire. Quand ils le font, il y a quand même des choses qui sont faites. Je pense aussi à Gaspard Noé. Mais souvent, le problème, c'est quand on entend ce qui s'est passé sur les tournages a posteriori, c'est un peu flippant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui semble sortir un peu des chemins battus, je ne dis pas qu'il y a toujours un loup, mais c'est compliqué qu'il n'y ait pas eu quelque part, parfois, et surtout dans le cinéma, ben pas que français, mais dans le cinéma, on sait que des abus de pouvoir, il y en a beaucoup, qui posent énormément de questions liées au consentement. Et je ne cite pas les exemples connus du style Le Dernier Métro, enfin les... Dernier Tango à Paris, choses comme ça. Voilà.
Bon, écoutez, on a beau n'en être encore qu'au préliminaire, on le sent bien.
Très long préliminaire.
On va tous être extrêmement frustrés, mais on va continuer à l'extérieur.
Il est temps de se retirer.
On va être obligés. Effectivement.
J'ai trouvé mes maîtres, mais alors.
Merci à vous tous.
Merci Sylvie.
Merci.
Merci à toi.